Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Aujourd'hui, dans ce thème, on peut dire que j'avais intitulé « Courez ». Si vous vous rappelez, on avait eu un premier message, je vous avais montré avec la parole de Dieu, « Courez votre course ». Et on avait vu que Dieu a préparé une voie, il a tracé un chemin, il a destiné une course pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que notre vie n'est pas seulement un fait hasardeux et on vit pas juste au jour le jour comme ça vient, mais on est engagé dans une course. On a vu ça à travers la parole de Dieu, on a vu qu'il y a un chemin spécifique pour chacun d'entre nous et qu'on n'a pas juste besoin de faire comme quelqu'un d'autre ou bien de chercher notre identité quelque part, mais Dieu nous a donné une identité toute particulière. Il nous a fait unique, il nous a fait avec un but précis et il nous a donné tout ce qu'il faut pour accomplir ce but. Donc c'était le premier message, on a ensuite parlé de courir selon les règles. Et on a vu plusieurs règles que la parole de Dieu nous donne, hein, parce qu'on va pas courir n'importe comment. Paul disait, je ne cours pas juste à l'aventure, je ne cours pas par hasard, je cours pour remporter le prix. Et il nous montrait, à travers ses enseignements, souvent Paul, parce qu'il a un enseignement assez intense, et une bonne partie du Nouveau Testament qui nous concerne a été écrite par Paul, mais on voit dans la parole de Dieu plusieurs indices. Et on a vu des indices pour courir notre course, courir selon les règles. Alors parmi ces règles, est-ce que quelqu'un se souvient d'au moins l'une ou l'autre des règles qu'on avait regardées ensemble? C'était une liste non exhaustive, mais peut-être que vous vous êtes rappelé, j'espère que vous vous rappelez de temps en temps de quelque chose dans ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a vu comme règle? On a vu qu'on doit courir pour remporter le prix ou de manière à le remporter. Et ça nous a amené à comprendre que nous devons être engagés complètement, entièrement dans cette course. Que nous devons nous mettre tout entier et mettre à profit toutes les ressources dont nous pouvons disposer, être prêts aussi à payer un prix pour remporter le prix justement de cette course. On a parlé de courir dans la foi ou avec foi pour aller jusqu'au bout. On court pas juste en disant il faut courir, mais on court parce qu'on est intimement et profondément convaincu que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont véritables, et donc on court avec foi. On court pas en se disant que peut-être il y aura quelque chose au bout, mais on court parce qu'on sait qu'il y a forcément quelque chose au bout, parce que Dieu a parlé et nous aurons notre récompense. On a parlé aussi de courir, moi-même, est-ce que je m'en rappelle, avec joie. Paul nous disait, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et si souvent la religion met sur nous un fardeau, et puis on n'arrive même plus à courir, hein, tellement ça pèse au bout d'un moment. Et puis les gens sont là en disant « Ah oui, c'est le combat du Seigneur. Hein. » Et ils sont tristes et ils sont abattus. Ça, c'est pas le combat du Seigneur. Parce que l'une de nos ressources, l'une de nos armes, l'une de nos doses, entre guillemets, d'énergie, c'est la joie de Dieu. Parce qu'il est dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Et on peut courir avec joie parce que même si aujourd'hui j'ai mal, et même si au bout d'un moment dans la course c'est difficile parce que peut-être il y a des côtes ou peut-être il y a des moments plus intenses où même les muscles brûlent et on se demande même si on arrive encore à avancer. Parfois les gens disent je sens même plus mes jambes, mais pourtant ils sont encore en train d'avancer ou de pédaler. Il y a bientôt le tour cycliste de la Guadeloupe qui se prépare. Et toutes ces choses-là, il y a un état où ça fait mal, c'est difficile, mais on continue avec joie parce qu'en espérance, on se voit déjà remporter le prix, on se voit déjà victorieux, on se voit surmonter toutes ces difficultés parce qu'on sait que ça n'est qu'un passage et que la destination, c'est pas juste d'avoir mal et de dire que j'ai combattu, la destination, c'est de remporter le prix, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de faire la joie de notre maître. Donc voilà certaines choses qu'on a regardées ensemble. On a également vu qu'il était important de ne pas se laisser distraire parce que justement, les circonstances de la vie ou parfois les personnes qui se trouvent le long du chemin, eh bien certains vont être pour nous des ressources, vont nous encourager, vont nous amener à avancer dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Mais quelquefois aussi, il y a des sources de distraction qui peuvent vous faire ralentir, vous arrêter ou même prendre un chemin différent. Et certes, nous avons la grâce de Dieu pour nous ramener sur la voie, mais c'est mieux de ne pas se laisser distraire. Et comment ne pas se laisser distraire? En gardant les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Donc si on regarde toujours sur Jésus, vous savez, si vous êtes au volant Évidemment, il faut être au courant de tout ce qui se passe autour de vous. Mais si vous voulez être efficace, il vous faut regarder là où vous allez. D'accord? Si je suis tout le temps en train de regarder les piétons à côté, ou le vélo qui passe de l'autre côté, ou bien la maison qui est en train de se construire, mais que je ne regarde pas mon chemin, je risque très rapidement de faire un accident. Parce qu'il ne faut pas se laisser distraire. Oui, on peut voir ce qui se passe autour de nous, mais on ne se laisse pas distraire, on garde l'objectif en vue. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Vous voyez, plusieurs choses comme ça. Et puis, il y a un moment où j'ai commencé à vous parler qu'il est important d'avoir des objectifs. Vous vous souvenez de ça? Mais je vous avais laissé sur votre soif. Et donc aujourd'hui, je voudrais poursuivre avec ce message que j'ai intitulé « Courez vers le but ». J'emprunte cette expression à un passage de Philippiens 3, 14 où Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ». Et rappelez-vous le passage de référence, on peut quand même le revoir ensemble dans 2 Timothée 4, verset 7, qui nous sert de support, de base à cet enseignement, qui est aussi une vision et un objectif justement que je voudrais nous fixer à tous. 2 Timothée 4 au verset 7, Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi ». Donc ici Paul nous dit avoir combattu le bon combat, achevé la course, gardé la foi. Il nous dit dans Philippiens 3, 14 « Je cours vers le but ». Rappelez-vous 1 Corinthiens 9 qu'on avait déjà vu, je passe dessus rapidement, où il disait « Je cours non comme à l'aventure, non pas comme battant de l'air ». Donc on va quelque part. Et ce matin, je voudrais vous parler de courir vers le but, et plus particulièrement, je voudrais vous parler des objectifs. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Comment on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre un objectif? Comment on devrait se mettre en marche et en action pour avancer dans ce but, dans cette vision, dans cet appel de Dieu pour notre vie? Parce qu'il est vrai que vous pouvez avoir, et j'espère que vous avez une vision de Dieu pour votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, bonne nouvelle, Dieu va vous la donner très bientôt. Et ce sera certainement l'objet d'un message aussi, parce que j'ai déjà noté ça en bas de mes notes, que ce serait bon d'en parler. Et c'est important d'avoir une vision pour notre vie, de savoir où nous allons, pourquoi nous sommes sur la terre, qu'est-ce que nous voulons accomplir. C'est important d'avoir une vision pour notre vie physique ou matérielle, on pourrait dire. Avoir une vision professionnelle, c'est bien. Avoir une vision plus globale. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi j'existe? Quel est le plan de Dieu pour moi? Pour certains, cette vision, ça peut être d'exercer un ministère ou d'être à plein temps dans un ministère, mais et très souvent, c'est ce à quoi on le réduit. Voilà, une vision de Dieu, c'est pour le ministère. Non. La vision de Dieu pour ta vie peut être d'être un excellent businessman, d'être une excellente secrétaire, d'être une très bonne femme au foyer, d'être un très bon mécanicien. Ça peut être la vision de Dieu pour ta vie, parce qu'à travers ça, il va atteindre des personnes et tu vas pouvoir toucher des gens que tu n'aurais pas touchés du haut d'une estrade ou même dans une croisade où des milliers seraient venus. Pendant que celui qui est dans une croisade en train de s'adresser à des milliers serait certainement un terrible mécanicien, comme moi-même je n'en serais pas un fameux du tout. Je vous déconseille de venir me voir pour la mécanique. Mais nous avons chacun un appel, une course, nous l'avons vu, et c'est bon d'être conscient d'un appel de Dieu pour nous ou bien d'une vision globale. Mais il n'y a pas que la vision globale, parce que sinon ça reste juste un rêve. Et quand Dieu nous donne une vision, certes j'utilise parfois le terme de rêve aussi, mais tu sais, je ne parle pas de rêve juste pour être là en train de rêvasser et puis de caresser un désir, mais comme quelque chose qu'on va jamais atteindre. Je rêve d'être professeur. Où je rêve de faire l'œuvre de Dieu, où je rêve d'accomplir telle et telle chose. On va pas juste rêver comme ça. Le rêve de Dieu ou la vision que Dieu a placée dans notre vie est appelée à se réaliser, mais pour se réaliser, nous devons participer au plan que Dieu a formé sur notre vie, et la réalisation de la vision de Dieu pour notre vie va passer par l'accomplissement de différents objectifs. Donc il y a un but général de Dieu. Et si nous parlions en termes d'église quelques instants, puisque nous sommes une assemblée quand même qui faisons partie du corps de Christ global, nous savons qu'il y a une vision, une mission pour le corps de Christ qui est la suivante. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc qui est quoi en quelques mots? D'évangéliser, de baptiser les gens, de les enseigner, de les former pour qu'eux-mêmes soient capables de faire la même chose. Le but, la mission d'une église, c'est aussi la louange et l'adoration. De donner à Dieu notre sacrifice, notre louange, notre adoration, de servir Dieu. Donc tout ça, ce sont des missions de l'Église. On peut dire que la mission de l'Église, c'est de faire du bien autour d'elle, avec des actions sociales. Toutes ces choses sont vraies, mais ça reste une vision, une mission globale de Dieu dans laquelle nous sommes tous engagés en tant que corps de Christ. Mais dans ce corps de Christ, il y a plusieurs, entre guillemets, sous-visions que Dieu peut donner. Et Dieu nous donne des objectifs à chacun, à chaque ministère, à chaque église, pour accomplir des choses particulières qui vont participer à l'accomplissement de cette vision générale. Maintenant, ramenons ça à notre vie personnelle. Il y a un rêve, il y a une vision, il y a un but de Dieu pour notre vie, ça c'est sûr. Certains le connaissent, certains ne le connaissent pas encore, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Parce que Dieu va vous parler, il va vous parler dans votre cœur, il va vous parler à travers des ministères, notamment prophétiques, qui sont là pour ça, pour nous appuyer, nous confirmer les vérités de Dieu. Il va vous parler de différentes façons. Mais cette vision-là n'est pas, en elle-même, ne va pas vous faire avancer. Avoir un rêve, c'est pas forcément ce qui nous fait avancer. Ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait investir de l'énergie, ce qui nous fait progresser, c'est de nous être fixé des objectifs. Et ces objectifs sont supposés, évidemment, progresser, devenir croissants à mesure de notre marche, de notre croissance spirituelle et de notre progression. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui particulièrement vous parler de courir vers le but et plus spécifiquement vous parler des objectifs. Parce que beaucoup de gens comme ça, ce que je vous dis, ils me disent « oui, c'est vrai, tu as raison, c'est exactement ça », mais beaucoup d'entre nous, et jusqu'à un certain temps aussi dans ma vie, jusqu'à ce que je découvre certaines vérités, que l'Esprit de Dieu m'enseigne ou que par certains moyens, parce que Dieu vous enseigne aussi par votre parcours personnel, professionnel, etc., où j'ai appris que c'était réellement qu'un objectif et comment il fallait fixer d'une certaine façon les objectifs pour les atteindre. Que beaucoup de gens sont là à dire « moi je voudrais plus servir Dieu » et les jours passent, les semaines passent, les mois passent, parfois les années passent et ils sont toujours là à dire « j'aimerais plus servir Dieu » mais ils n'en font pas beaucoup plus que ce qu'ils faisaient le premier jour où ils ont émis ce souhait, ce rêve, cette vision. « Je voudrais passer plus de temps dans la Bible. » Qui a déjà un jour fait ce souhait? Qui a déjà un jour exprimé ça? Moi ça m'est arrivé. Mais vous savez, entre le jour où j'ai exprimé ça pour la première fois et le jour où j'ai commencé à lire sérieusement ma Bible, il s'est passé énormément de temps. Parce que de mois après mois, même parfois année après année, en janvier, je disais « Non, Seigneur, cette année, je vais lire plus ma Bible cette année. » Ça, c'est sûr. Et puis j'arrive en décembre et j'avais déjà lâché l'affaire au bout de quelques semaines. Jusqu'à un beau jour, j'ai compris qu'il fallait peut-être se fixer un objectif et je dis « Je vais lire un chapitre par jour. » Et j'ai commencé comme ça il y a quelques années. Et plus tard, j'ai dit « Tant de chapitres. » Et plus tard, on a un jour aussi... relever ce défi ensemble, enfin pour certains d'entre vous, il faudra peut-être qu'on réactive, mais de lire la Bible ensemble pour s'encourager. Et on a dit on va lire tant de chapitres par jour, entre 3 et 5 selon la taille des chapitres. Et maintenant il y a un objectif et je pense que si vous avez cette fiche avec vous, peut-être que de temps en temps vous ratez une journée. Non, bien sûr. Mais en tout cas, si on est honnête, on réalise et je réalise que moi depuis que j'ai commencé dans ma propre vie à me faire cette liste, où je sais que chaque jour j'ai tel et tel passage à lire, pas juste comme un devoir, mais pour me fixer des objectifs, eh bien c'est là que j'ai commencé à lire ma Bible sérieusement. Pourtant la volonté, elle était déjà là, l'envie de bien faire. Mais l'envie de bien faire où les intentions ne vous amèneront jamais à l'accomplissement de votre vision, de votre appel. Ce qui vous y amène, c'est d'aller d'objectif en objectif. Évidemment, de réaliser vos objectifs. Donc ce matin, je voudrais vous donner quelques instructions au sujet des objectifs. Et ça va pas juste être un espèce de discours. Vous savez, cette conférence, je pourrais la faire dans un autre contexte complètement, sans même parler spécialement des affaires de Dieu, parce que c'est des principes qui existent, qui sont vérifiables, mais et les gens pourraient payer, et parfois les gens payent cher pour ce genre de formation, vous savez, comment se fixer des objectifs, etc. Et ce qui est dommage, c'est que vous pouvez toujours vous fixer des objectifs, mais sans Dieu, tôt ou tard, vous allez être en face de vos limites et vous ne pourrez pas aller au-delà. Mais quand même, il y a des bonnes choses, et je voudrais vous montrer ici certains principes, et avec en plus... On va voir que dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il faut pour être efficace, pour avancer, pour se fixer des objectifs et pour les atteindre. Et c'est important de nous appuyer sur la parole de Dieu, mais aussi d'être pratique de temps en temps. Donc ce message va peut-être vous paraître un peu pratique, voire même un peu technique, mais je vous encourage à prendre des notes. Un beau jour, vous allez dire, mais waouh, ce qu'on a reçu là, c'était précieux. Et peut-être qu'un jour, vous direz, mais à partir de ce dimanche-là, j'ai commencé à accomplir ce que j'ai dit que je voulais accomplir parce que j'ai compris comment il fallait faire. Et si vous le savez déjà, tant mieux, puisque ça va se réactiver en vous et vous allez devenir efficace. Je dis souvent que nous ne sommes pas juste chrétiens pour venir à l'église, pour faire des petites choses et se sentir meilleur que les autres. Vous savez, si nous sommes chrétiens, nous devrions être les personnes sur la terre les plus épanouies, les personnes sur la terre qui accomplissent le plus de choses. non pas forcément d'être les plus riches, les plus forts, les plus grands patrons, tant mieux si nous y arrivons et que Dieu nous y amène, mais d'être les personnes qui sont heureuses dans leur activité, des personnes qui prennent une décision et qui vont au bout de leur décision, des personnes qui ont une vision, un but, un appel et qui vont accomplir ce but, des personnes qui réalisent ce qu'elles disent, ce en quoi elles croient, ce pourquoi elles se lèvent le matin, et pas juste qui se réveillent et puis qui se disent « bah une journée de plus, on verra bien ce qui va arriver ». Je vous rappelle que nous ne sommes pas censés seulement réagir à ce qui se passe dans notre vie, mais nous sommes censés provoquer ce qui se passe dans notre vie. Par notre foi, par des objectifs clairs, établis, par un positionnement dans notre autorité en Christ, qui va faire en sorte que nous nous portons vers ce en quoi nous croyons et que nous appelons à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient et non pas nous sommes surpris et nous subissons ce qui nous tombe dessus parce que nous n'avons pas pris notre position d'autorité. Nous ne sommes pas sur terre pour subir la vie. Nous sommes sur terre, Romains chapitre 17, si je ne m'abuse, pour régner dans la vie par Christ. Régner dans la vie par Christ, ça veut dire prendre des décisions, être en situation d'autorité et réaliser ce pourquoi nous sommes venus, réaliser ce que nous désirons d'une certaine façon, à condition de désirer les choses que Dieu désire, évidemment, mais accomplir ce pourquoi Jésus nous a délégué son autorité. Dans le domaine spirituel, mais aussi dans votre vie physique, vos relations, dans votre vie professionnelle, vous êtes appelé à accomplir des choses, à réussir, à vous démarquer, parce que Christ en vous demande à se révéler, à se manifester, parce qu'à travers votre efficacité, votre progression et votre réussite, le monde aura soif de connaître, mais qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce qui fait que tu arrives? T'as peut-être pas un arrière-plan différent. Et c'est vrai que souvent je témoigne de ma vie professionnelle, mais parce que c'est un domaine où Dieu m'a abondamment béni, parce que j'ai pas un arrière-plan spécialement favorisé, j'ai pas fait autant d'études que j'aurais pu, même si j'avais commencé, mais je me suis arrêté pour travailler, j'ai pas fait de très grandes formations, j'ai pas fait de grandes écoles de commerce, j'ai pas fait de grands cursus dans certains domaines, et pourtant aujourd'hui j'ai atteint, et dans mon parcours j'ai atteint certaines positions pour lesquelles il y a des conditions assez élevés qui sont établis. Mais comment vous y arrivez? Comment vous faites pour être meilleur que les autres? Comment vous faites pour être efficace? Comment vous faites pour avoir la bonne idée? Comment vous faites quand il y a une situation qui se présente où personne ne sait quoi faire pour avoir de l'imagination et pour dire mais voilà comment on va prendre la situation? Comment vous faites quand tout le monde est énervé, stressé parce qu'ils savent pas comment s'en sortir et que vous êtes en paix, vous dites réfléchissons tranquillement et que vous amenez une parole de sagesse? Vous le faites parce que vous avez celui qui connaît toutes choses. Vous le faites parce que vous avez le Saint-Esprit comme aide, comme assistant, comme consolateur, comme conseiller. Et c'est ce que le monde attend de voir et c'est ce que nous sommes supposés apporter dans ce monde. Et Dieu va se glorifier à travers ça, mais donc je reviens au sujet, courez vers le but, courez pour accomplir votre vision, courez dans la foi, courez votre course. Mais courez efficacement, courez de manière à accomplir quelque chose. Donc fixez-vous des objectifs. Les objectifs, c'est un petit peu comme des étapes sur un itinéraire. Alors c'est vrai que la Guadeloupe, c'est pas extrêmement grand, mais quand même, si je pars de Saint-François et que je souhaite me rendre à Basse-Terre, ne serait-ce qu'intellectuellement, je vais me dire, bon, je vais passer par Sainte-Anne, puis par Gosier, puis par Pointe-à-Pitre, et puis je vais prendre, vous choisissez, soit vous prenez le pont de l'Alliance, soit vous prenez le pont de la Gabarre, vous fixez des objectifs. Et quand vous avez traversé le pont, vous dites, c'est bien, je suis déjà à mi-chemin. Vous dites, maintenant, on va passer soit par la traversée, ou bien on va faire le grand tour pour s'amuser. Et on se fixe un objectif. À chaque fois qu'on traverse une commune, on se dit, ça y est, objectif atteint. Et on vise la suivante. Et tout ça, c'est un travail mental dont nous ne sommes pas toujours conscients, parce que c'est des choses simples, mais vous êtes en train d'acquiescer, donc ça veut dire que je ne raconte pas seulement des histoires, et que je ne suis pas juste un espèce d'ahuri qui pense toujours à ce qu'il fait, mais c'est des exemples simples de notre vie. Mais dans notre progression, dans tous les domaines de notre vie, même dans l'appel de Dieu, nous avons besoin aussi de nous fixer des objectifs. C'est ce qui nous motive. Et lorsque nous passons un premier objectif que nous atteignons et que nous visons un second, déjà nous avons le sentiment d'avancer. Ça nous motive, ça nous encourage. On a fait un pas de plus. On est en train d'aller de l'avant. C'est ce qui va vous donner de l'énergie. Et à certains moments, on peut se demander, ou le matin quand vous vous levez, demandez-vous, mais qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Où est-ce que je vais? Et est-ce que vous avez une raison de vous réveiller le matin? Est-ce que vous êtes en train de viser un objectif dans votre vie personnelle, vie professionnelle, vie spirituelle, quelconque? Est-ce que vous êtes en train de viser quelque chose ou bien vous êtes juste là et les choses sont en train de se passer? Et quelquefois, si nous manquons d'énergie et d'enthousiasme, c'est parce que nous manquons d'objectifs. Et même si on sait qu'on doit bien faire ou qu'on veut bien faire, eh ben on n'a pas toujours la force, on n'a pas toujours envie, on n'est pas toujours motivé parce qu'on n'a pas un objectif précis. Parce qu'on ne sait pas peut-être l'appel ou la vision de Dieu pour notre vie. Ou bien on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Donc ça, il nous manque d'être établi, nous manque de l'énergie. Mais vous savez, si nous n'avons pas ces objectifs clairement fixés, si nous n'avons pas une vision de Dieu dans notre vie, eh bien dès que les problèmes arrivent, qu'est-ce qui se passe? On est vite balayé parce qu'on ne sait pas pourquoi on court. Et alors on commence à réfléchir, on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de courir? Mais quand vous avez une vision de Dieu, un objectif de Dieu, et l'une des choses que je fais, j'avance déjà un peu sur ce que j'allais dire, mais vous savez, à certains moments dans ma vie, Dieu m'a parlé plus régulièrement que d'autres, on va dire, enfin, il me parle, mais parfois il y a eu beaucoup plus de paroles prophétiques, par exemple, des gens qui viennent me dire, tu sais, je sens de la part de Dieu telle chose, telle chose. Et prenez une habitude, c'est notez-le sur un carnet. Ou même quand Dieu vous parle, vous êtes dans la présence de Dieu et puis vous sentez vraiment dans votre cœur qu'il vous dit quelque chose. Notez-le sur un carnet. Et quand c'est difficile, quand vous avez envie de laisser tomber, et quelquefois vous pouvez être vraiment à la frontière, à la limite du fossé, en train de lâcher prise, et puis tout d'un coup vous tombez sur ce cahier, vous commencez à lire, et quelquefois vous commencez à pleurer. Mais vous avez une raison de courir. Vous dites non, ça vaut le coup. Ça vaut la peine. Je continue, je cours ma course. Je vais accomplir ce que Dieu m'a dit. Mais si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas d'objectif, pourquoi vous courez? Vous courez à l'aventure, vous courez pour battre le vent, mais vous êtes facilement balayé. Donc ce matin, je vais vous montrer certaines réalités sur les objectifs. Et première chose à réaliser, c'est qu'un objectif n'est pas quelque chose de vague. Si vous voulez accomplir quelque chose et réaliser quelque chose, il vous faut beaucoup plus qu'une idée vague. J'ai parlé tout à l'heure de lire plus sa Bible, par exemple, ou de prier plus. Ou de faire plus de bien autour de soi. Mais plus, c'est quoi? Parce que même un premier point, c'est qu'un objectif est spécifique. Quand je dis spécifique, c'est qu'il concerne une action particulière et avec un niveau particulier. Par exemple, au lieu de dire « je vais prier plus », dites « je vais prier 5 minutes » ou 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes. Parce que plus, c'est quoi? Est-ce que plus, c'est 10 secondes de plus que ce que j'ai l'habitude de faire? Est-ce que plus, c'est plus souvent? Et soyez précis, soyez spécifique. Vous savez, parfois, les gens disent, moi, je voudrais vivre mieux. Oui, mais vivre mieux, c'est une vision, c'est bien, c'est un rêve général, mais c'est quoi vivre mieux? Qu'est-ce qui fait que tu aurais l'impression de vivre mieux? Et là, je suis en train de vous offrir une heure de coaching gratuite. Hein. Mais ne me répondez pas, mais posez-vous les bonnes questions. Vivre mieux, c'est quoi? Beaucoup de gens disent, moi je voudrais être heureux. Oui, mais être heureux, c'est quoi? Et alors on court après le bonheur, mais en réalité, tant qu'on n'a pas un objectif, on ne sait même pas après quoi on court, donc on ne l'atteindra jamais. Les gens disent, moi je voudrais être plus heureux, mais ça fait des années qu'ils aimeraient être plus heureux, qu'ils courent de gauche à droite et qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui fait que tu serais plus heureux? Comment saurais-tu que tu es plus heureux? Comment sais-tu que tu atteins ton objectif? S'il n'est pas spécifique, s'il n'est pas précis, comment tu sais que tu y es arrivé? Ou comment quelqu'un autour de toi peut dire, mais effectivement, regarde, tu as atteint ton but, tu as réussi telle chose. Donc, vos objectifs ont besoin d'être spécifiques. Ils vont concerner un domaine en particulier. Par exemple, changer de travail, ça peut être un très bon objectif, mais changer de travail seul, c'est pas suffisant. Changer de travail pour faire quoi? Ça, c'est juste le rêve, c'est la vision. J'aimerais changer de travail, j'aimerais un meilleur boulot. D'accord, un meilleur boulot, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tout ça, ça reste juste une vision, un désir, une envie. Mais derrière cette vision, ce désir, cette envie, on peut se fixer l'objectif, par exemple, de faire une formation pour se préparer à un nouveau travail. Ça, c'est un objectif. Puisqu'il appelle à une action. On va faire cette formation, on va arriver au bout. Ok, j'ai fait ma formation, maintenant ça m'ouvre la porte à ce nouveau travail, par exemple. Et toutes sortes d'objectifs qu'on peut avoir. Peut-être je voudrais maigrir. Oui, mais tu veux maigrir de combien? Ou bien je voudrais faire plus de sport. Et ça fait partie de mes rêves, qui sont restés des rêves depuis très longtemps et qui pour l'instant sont encore un rêve parce que je ne me suis pas encore fixé d'objectif. J'avoue que je ne suis pas très pressé. Il y a d'autres priorités, mais... ça fait partie de mes rêves, faire plus de sport. Je ne le fais pas encore, ça viendra, peut-être qu'il serait temps de m'y mettre, mais Faire plus de sport ne me met pas en action et ne me pousse pas à faire du sport. Ce qui me pousserait, ce serait peut-être de me fixer l'objectif de courir 5 minutes par jour. Ça, c'est un objectif. Ça pousse à l'action. Parce qu'au début, j'ai peut-être pas envie, je me force à sortir, et puis les 5 minutes paraissent une éternité, mais quand j'arrive au 5 minutes, je dis « Ah, mais quand même, j'ai réussi, j'ai fait mes 5 minutes. » Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire saisir, c'est que c'est pas le tout d'avoir une vision, un rêve, même une parole de Dieu. C'est pas tout. J'allais dire, c'est pas suffisant. Je ne réduis pas la parole de Dieu, mais c'est pas tout de caresser une vision, d'avoir un appel. Nous devons fixer des objectifs pour avancer, pour nous porter vers la réalisation de cet appel de Dieu. Et je généralise un peu parce que c'est vrai dans votre vie quotidienne. Vous savez, même si vous regardez un petit peu dans les évangiles, certaines des histoires, notamment de guérison, on va réaliser que certaines personnes ont obtenu leur guérison, leur miracle, parce qu'ils se sont fixés un objectif. Marc chapitre 5, on a cette histoire très connue de tous ceux qui ont déjà un jour ou l'autre entendu un message d'évangélisation, et c'est très bien d'utiliser ce passage, mais cette femme qui avait une perte de sang depuis de nombreuses années, qui avait dépensé tout ce qu'elle avait, et qui avait fait toutes sortes de choses, et puis ça s'était toujours pas résolu. Et on voit cette femme qui, contre toute attente et contre tous les interdits de l'époque, va traverser la foule pour toucher le vêtement de Jésus, parce qu'elle se disait « Si seulement je touche ton vêtement, je serai guérie. » Elle avait le rêve, la vision d'être guérie. Et elle savait que Jésus pouvait guérir. Mais à un moment, elle s'est fixé un objectif, toucher son vêtement, pour recevoir sa guérison. Elle ne s'est pas contentée de rester là en se disant « J'aimerais être guérie, je pourrais être guérie, je voudrais être guérie. » Elle a posé une action parce qu'elle s'est fixé un objectif, elle a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus a répondu à sa foi. Elle n'est pas juste restée là comme ça. On a aussi de temps en temps cette question, moi qui au début je comprenais pas, je disais mais Jésus quand même tu exagères parfois, avec tout le respect que j'ai pour Jésus évidemment, mais vous savez quand vous avez un aveugle qui arrive devant vous, que vous êtes le fils de Dieu, que vous accomplissez des miracles et que vous lui dites qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Jésus savait très bien pourquoi il le faisait. Et à travers ça, Jésus te dit qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif? Peut-être que vu de l'extérieur, et ça paraît évident, tu vas être guéri, mais peut-être que tu as un autre objectif, peut-être que tu as un autre besoin. Mais surtout, Jésus voulait que cet aveugle qui venait devant lui ait un objectif. Il voulait qu'il vienne pas juste comme ça parce que le fils de Dieu est guéri. Il voulait voir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que c'est par hasard que tu passes par là ou bien est-ce qu'il y a une raison à ton passage, à ta présence devant moi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et à certains moments, on est devant Dieu et on se dit « Seigneur, fais ce que tu veux ». Et puis le Seigneur est en train de nous dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Autrement dit, quel est ton objectif? Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que comme ça, nous voyons si Jésus répond ou pas. Parce que quand on dit « Fais ce que tu veux », peut-être qu'il a fait quelque chose, mais on l'a même pas vu passer puisqu'on ne sait pas ce qu'on lui a demandé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous qu'on ne voit même pas parce qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons, espérons ou pensons. Mais Dieu aime et c'est bon de demander à Dieu quelque chose. Parce que ça nous donne un objectif pour notre foi. Vous savez, même dans la prière, c'est ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, c'est un principe général qui s'appliquera partout. Quand vous priez, ayez des objectifs à votre prière. Vous priez pour quoi? Et même quand on prie pour les gens, ne priez pas juste « Seigneur, touche-le ». C'est quoi « touche-le » ? Excusez-moi de secouer un peu des choses, mais moi-même j'ai dû sérieusement me remettre en question par rapport à ça à certains moments. Ou « Seigneur, bénis-le ». C'est quoi « bénis-le » ? C'est quoi « bénis-le » ? Oui, c'est fais-lui du bien, mais comment tu sauras qu'il a été béni? Et peut-être que ça vous coûtera quelques centilitres de salive de plus, mais soyez précis, il y a un objectif. Quand vous priez, il y a des objectifs pour voir la réponse à votre prière. Et Dieu prend plaisir à honorer notre foi, et même dans des détails. Et ça m'amuse parce que parfois j'entends des témoignages, et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit quand même, il y a des gens qui ne manquent pas d'air, on va dire. Et les gens parfois qui disent, vous savez, moi j'ai prié, j'avais besoin d'une voiture et j'ai dit au Seigneur, moi je veux telle voiture, de telle couleur, etc. Au début je disais quand même, vous êtes un peu prétentieux les gars. Mais avec le temps j'ai dit, mais c'est exactement la bonne attitude. Parce qu'on est exigeant, on a un objectif. Donc on va pas non plus commencer à demander tout, n'importe quoi et mettre des détails inutiles, d'accord? Mais il y a des choses sur lesquelles il est bon d'avoir un objectif précis qui fait que le jour où la voiture de telle marque et de telle couleur est arrivée, il savait que l'objectif était atteint. Et c'est un témoignage extraordinaire. J'imagine comment la personne a dû se réjouir. Et c'est bon de le faire comme ça. Seigneur, moi je veux telle chose. Évidemment, on va prier selon la volonté de Dieu, on va prier conduit par le Saint-Esprit, mais avec précision, avec un objectif. Donc un objectif doit être spécifique. Que veux-tu que je te fasse ? Que je recouvre la vue ? Ok, tu recouvres la vue pour cet aveugle. Que veux-tu que je fasse ? Cet objectif, s'il est précis, il va être aussi mesurable. On verra qu'on l'a atteint ou pas. Ou au moins en cours de route, s'il paraît grand ou un petit peu plus général, on va dire, mais en cours de route, vous pouvez savoir si vous êtes en chemin ou pas, vers le but, vers la vision, vers l'appel de Dieu. Par exemple, Dieu vous donne une vision, un appel. Mais comment vous faites pour savoir si vous vous portez dans la bonne direction ? Comment vous faites pour savoir que vous êtes en train de progresser ? Il vous faut un objectif. Si vous avez envie de travailler à l'international, eh bien, encore une fois, un des objectifs que vous pouvez vous fixer, c'est de vous former, d'apprendre la langue, et puis de commencer à vous intéresser aux activités internationales, etc. Mais comment vous savez en cours de route que vous progressez vers le but, parce que justement vous avez mis en place des actions, parce que peut-être vous commencez à être capable de lire un livre ou un document dans la langue qui vous intéresse, que vous ne connaissiez pas auparavant. Vous dites, tiens, ben là je suis en marche vers l'objectif, je commence à être capable de comprendre. Je commence à mieux saisir comment les choses fonctionnent. Paul disait à Timothée, que tes progrès, 1 Timothée 4.15, soient évidents pour tous. Alors, il y a le pour tous qui est intéressant, mais même le évident, il est intéressant. Comment un progrès peut-il être évident ? Il peut être évident parce qu'il est mesurable, parce qu'on peut le constater. Encore une fois, si on parle de temps, je dis je voudrais lire plus ma Bible. Même si vous avez lu plus votre Bible, est-ce que ça sera évident pour vous ou pour quelqu'un qui vous regarde de savoir que vous l'avez lu plus ? Par contre, si vous dites, maintenant je vais lire ma Bible 10 minutes de plus ou bien 10 minutes, eh bien, quand vous aurez regardé votre montre, parce que moi c'est comme ça que je faisais, au moment où vous allez commencer, et au moment où vous allez finir, c'est évident pour vous, et même pour quelqu'un qui peut-être vous observe, que vous avez lu votre Bible 10 minutes. Vous avez fait un progrès, parce qu'avant vous ne la lisiez que 5 minutes. Alors ne vous faites pas surveiller quand vous lisez votre Bible. Hein. Et un conseil au passage, ne lisez pas votre Bible sur la base du temps, c'est pour ça que moi j'ai plus adopté un plan au chapitre, même si parfois je déborde un peu, parce que le temps... C'est pas intéressant parce que parfois on va soit faire la course hein, pour en lire le maximum et on passe à côté de la moitié en route, ou soit on va un peu traîner et puis on est là à souffler, on est là à regarder toutes les quelques secondes et ce qui reste encore combien de temps. Est-ce qu'il reste encore 1 minute, 2 minutes hein. Donc fixez-vous des objectifs spécifiques, précis, mesurables. J'aimerais dire aussi réalistes. Alors quand je dis réaliste, je suis pas en train de tuer votre foi, vous allez comprendre. Est-ce que l'objectif que vous fixez est réaliste ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réaliser ? Et c'est pas seulement question de regarder à mes ressources présentes, mais c'est est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent ? C'est quelque chose qui a du sens aujourd'hui, là où j'en suis ? Parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est que certainement, et d'ailleurs la plupart du temps, la vision que Dieu va vous donner pour votre vie, elle n'est pas réalisable. Ça, c'est clair. Le jour où il vous dit « Voilà ma vision pour ta vie », vous regardez et vous dites « Ben mon Dieu, ça vous paraît pas réalisable. » Par contre, les objectifs qui vont vous amener vers l'accomplissement de cette vision doivent, eux, être réalisables. C'est-à-dire que si Dieu te donne la vision, comme un certain évangéliste auquel je pense en ce moment, qui a prêché devant des foules énormes dans plusieurs pays d'Afrique notamment, de sauver, c'est Jésus qui sauve, mais d'amener au salut des milliers de personnes dans certaines régions du monde, quand il a eu cette vision, je ne sais pas trop quelle a été sa réaction. Mais il n'a pas commencé par monter une estrade et puis dire aux gens « Venez, venez !» et puis par prêcher à des milliards de personnes. Certainement, vous vous fixez un objectif et vous vous dites « Je vais toucher une personne cette semaine ou bien ce mois-ci. » Il dit « Là, ce mois-ci, je veux au moins témoigner une fois à quelqu'un. » Ça, c'est largement réalisable. Et si un mois, ça vous paraît trop court, dites ce trimestre. Mais fixez-vous des objectifs réalisables. Ne vous mettez pas la barre à un niveau que vous n'atteindrez jamais, vous allez vous décourager tout seul. Et ne cherchez pas non plus tout de suite à accomplir le rêve, la vision globale, vous n'y arriverez de toute façon pas, il vous faut passer par des étapes, par des objectifs intermédiaires qui sont réalisables et pour lesquels vous allez exercer votre foi à un premier niveau. Et quand vous allez l'accomplir, ça va vous renforcer, vous encourager, vous allez être établi, vous allez pouvoir commencer à exercer votre foi pour plus. À la première étape, vous exercez votre foi pour votre pain quotidien. Puis ensuite, vous avez votre pain quotidien. Merci Seigneur, vous avez commencé à exercer votre foi pour d'autres choses. Et ensuite, vous exercez votre foi pour les autres. Et dans tout ce que vous accomplissez, fixez-vous des objectifs réalistes et des objectifs qui ne dépendent que de vous seul et de Dieu, bien sûr, en vous. Mais si on se fixe un objectif pour lequel il faut que le voisin, le copain, le cousin ou quoi intervienne, déjà, c'est pas bon parce que vous devez rester, entre guillemets, au contrôle de votre progression. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas là pour faire les autres avancer à notre place ou pour dire que ouais, mais si j'avance, si j'avance pas, c'est de la faute des autres. Dieu t'a donné ta course, rappelez-vous. Dieu t'a donné une responsabilité, une mission. Dieu t'a donné un appel et Dieu t'a donné une onction qui va avec. Dieu t'a donné toutes les ressources qu'il faut pour courir ta course. Donc oui, le Seigneur met autour de nous des personnes qui vont être pour nous des ressources, des personnes qui vont nous aider à progresser à certaines étapes de notre chemin et parfois beaucoup plus longtemps. Et il nous met au contact les uns des autres, sinon on n'aurait pas besoin de se rencontrer pour se fortifier mutuellement, etc. Mais aucun de nous ne peut courir la course de l'autre à sa place. Donc fixez-vous des objectifs qui n'engagent entre guillemets que vous, dont vous soyez responsable. Dites, je me fixe cet objectif-là. Peu importe que quelqu'un ne fasse pas, ça ne doit dépendre que de vous. De telle manière à ce que vous vous focalisiez dessus et que vous alliez l'accomplir. Et ensuite, vous êtes capable de voir, ben voilà, je suis passé d'un point A à un point B. Parce qu'il est spécifique, il est mesurable, il est réaliste. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à une étape suivante aussi. Voilà comment se fixer un objectif. Vous savez, Jésus, toujours, hein, puisqu'on parle de Jésus, dans certains de ses miracles, rappelez-vous encore, c'est très célèbre, ce beau jour où il a prêché à une foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il commençait à se faire tard et les gens avaient faim. Et les disciples voulaient renvoyer les gens chez eux. Et Jésus va leur faire une réponse pour le moins surprenante. Il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples vont questionner Jésus en disant, mais où est-ce que tu veux qu'on achète du pain à cette heure-ci? J'extrapole un peu, mais tous les boulangers sont fermés. Et puis même si on avait un d'ouvert, il n'y aurait jamais du pain pour 5000 personnes. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et il leur donne un objectif, une responsabilité. Mais vous savez, quand Jésus leur dit, donnez-leur à manger, ça paraît irréalisable comme ça, mais il n'est pas parti de rien. Il y avait les quelques pains et poissons du petit garçon. Il y avait quelque chose. Donc quand je vous dis fixez-vous un objectif réalisable, c'est fixez-vous un objectif que vous pouvez atteindre, mais aussi soyez dans la foi. Mais regardez si aujourd'hui vous êtes prêt à mettre ce que vous avez pour la réalisation de cet objectif. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que Dieu ne fera jamais rien à partir de rien. Ça, c'est fini. Il l'a fait une fois pour toutes lorsqu'il a créé ce monde. Mais par contre, Dieu peut faire des miracles extraordinaires à partir du très peu que nous pouvons avoir. Donc, si vous avez un objectif, une vision, c'est très bien. Mais regardez par rapport à ce que vous avez, est-ce que c'est réalisable? Peut-être que ce que j'ai ne suffit pas, mais est-ce que je suis prêt à investir ce que j'ai avec foi pour que ce que j'ai puisse être utilisé par Dieu pour atteindre l'objectif? Que nous marchions par la foi, merci Seigneur, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Parce que même si je n'ai pas assez pour accomplir ce que Dieu m'a montré, le quelque chose que j'ai va être suffisant pour déclencher le miracle de Dieu. Alors que dans ce monde, on se contente de regarder ce que j'ai assez, non, tant pis, on va pas le faire. Mais nous on peut faire parce qu'on peut dire, Seigneur, moi j'ai pas assez, mais toi tu as tout ce qu'il faut. Je sais que si je te donne ça, tu peux faire quelque chose avec. Donc, objectif précis, mesurable, spécifique, réaliste, j'allais dire respectueux de l'intégrité, de votre intégrité. En langage spécialisé, on parle d'écologique, qui n'a rien à voir avec le respect de la nature. Mais est-ce que ce que vous vous apprêtez à faire, est-ce que l'objectif que vous fixez, il est en phase avec vous-même? Est-ce qu'il vous correspond? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je peux me fixer l'objectif demain de faire certaines choses, mais vous, faire ces choses-là ne vous correspondrait pas. Vous allez les faire un peu, vous allez vous forcer à les faire. Mais si vous voulez réellement atteindre un objectif, il faut que cet objectif soit en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous avez dans votre cœur. J'élargis en disant avec ce que Dieu a mis dans votre cœur. C'est-à-dire qu'on ne va jamais réaliser quelque chose, vous savez, qu'on fait en se forçant. C'est pour ça que je dis pas, si vous n'arrivez pas à lire la Bible, forcez-vous. Ne vous forcez pas à lire la Bible. Fixez-vous un objectif que vous pourrez réaliser maintenant pour ne pas avoir besoin de vous forcer. Donc, je ne dis pas de dire « Ah, mais moi, je le sens pas, donc je vais pas le faire. » Parce que si vous êtes un enfant de Dieu sincère, vous savez qu'il est bon de lire sa parole pour vous nourrir et vous renouveler. Mais je vais pas vous dire « Forcez-vous. » Par exemple, moi, une chose qui m'énerve, pardonnez-moi, peut-être que ça aide des gens, mais moi, ça m'énerve d'entendre de dire « Tu dois prier une heure par jour, sinon c'est pas bon. » Ou « Tu dois faire telle chose et telle chose. » Tu ne dois pas. Un objectif, c'est pas tu dois. Un objectif, c'est tu décides de faire quelque chose et alors tu mets l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Et c'est là que ça a du sens et que tu vas être efficace. Si tu le fais seulement parce que tu le dois, tu n'y arriveras pas très longtemps. Tu vas lâcher prise très vite. Je l'ai fait aussi. Ça m'est arrivé de lire ma Bible parce que c'était non, mais tu dois lire ta Bible. Alors je me forçais, puis je lisais un peu ma Bible, mais je lâchais de nouveau en cours de route. Parce que ce n'était pas mon objectif, ce n'était pas en phase avec une décision que j'avais prise pour progresser dans cette dimension-là. Et je ne le faisais pas parce que j'y voyais un moyen que Dieu utilisait pour me parler, pour m'instruire, pour changer ma mentalité et pour m'amener dans une plus grande maturité spirituelle, mais je voyais juste ça parce que tu es chrétien, tu dois lire ta Bible. Et vous n'allez jamais investir autant d'énergie dans quelque chose que l'on vous a imposé que dans quelque chose que vous avez vous-même choisi parce que vous avez entrevu une raison valable de le faire. Vous savez, même Dieu le fait. Pourquoi est-ce que Dieu passe son temps, pardon, dans la parole, à assortir ses instructions de promesses? Parce que si tu es capable d'entrevoir une raison de faire quelque chose, tu es capable de mettre de l'énergie pour l'accomplir. Mais si tu le fais juste parce qu'on t'a dit tu dois le faire, c'est pas la même chose. Et même Dieu ne passe pas son temps à nous dire tu dois pas. Dieu nous dit honore ton père et ta mère, alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Dieu te dit, prends ton plaisir dans ma loi, médite-la jour et nuit, alors tu réussiras, tu auras du succès. Dieu te dit, obéis, honore-moi dans tes finances et tu verras tes greniers sont remplis d'abondance. Et il nous donne aussi une image de ce que ça peut produire pour réveiller en nous la motivation qui fait en sorte que je me fixe l'objectif d'obéir à la parole de Dieu parce que je sais que ça m'amène quelque part. Dieu lui-même le fait. Il nous dit pas juste, tu le fais et c'est comme ça. Lui, si tu obéis à ma voix et que tu fais ce qui est juste, voilà les bénédictions qui seront ton partage dans le Deutéronome. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tout est, je vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, tout sera largement béni. Pourtant, Dieu pourrait, il est en position de nous dire, tu fais ça et c'est pas autrement. Peut-être que ça peut parfois nous enseigner sur l'éducation de nos enfants. Parfois, il faut être ferme et dire, tu fais ça, c'est pas autrement, mais c'est mieux de dire, tu fais ça parce que tu vois ce que ça peut produire ou ce que ça peut pas produire, c'est nous leur donner une raison. Eux-mêmes d'adhérer et de pratiquer la chose non seulement par obligation mais parce qu'ils ont compris ce que ça va provoquer. Ça, c'est la pédagogie que Dieu utilise envers nous. Moi, je sais pas pour vous, mais Dieu m'a jamais dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Dieu m'a toujours montré quelque chose derrière. Soit ce que ça pouvait produire de destructeur, ou soit quel était son objectif pour accomplir quelque chose à travers ça. Alors tu dis, mais on va le faire parce que ça vaut le coup. Même quand il nous dit de courir notre course, d'accomplir notre appel, il nous montre parce qu'il y a un prix à remporter, le prix de la vocation céleste. Il nous montre qu'il y a des couronnes qui sont préparées, qui sont faites spécialement pour nous. Il nous montre qu'un beau jour, quand on sera devant lui, il pourra nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Il nous montre que ces hommes et ces femmes autour de nous qui sont en train de se perdre, eh bien, on peut participer à ce que leur destinée change et à ce qu'ils soient dans le plan de Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem, en train de vivre dans la présence même de Dieu. Et Dieu nous donne un objectif, Dieu nous donne une vision de ce que ça va produire. Donc, ayez une vision. Fixez-vous des objectifs. Visez quelque chose. Et vous savez quoi? Quand vous manquez d'énergie, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous de ce que va provoquer le fait d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et parfois, les gens disent, moi, je veux... Par exemple, excusez-moi d'être là-dessus, hein, je vise vraiment personne, hein, mais si par exemple, quelqu'un dit, je veux maigrir, pourquoi tu veux maigrir? Alors, si la personne vous dit que c'est juste pour être mieux vis-à-vis des autres, on va se dire, avant de maigrir, on va travailler l'estime de soi. Mais si la personne vous dit pour me sentir mieux, eh bien, à l'idée de se sentir mieux après, ça va lui donner la force quand elle est là avec son régime de dire, non, mais quand même, je me sentirai mieux après. Donc laisse-moi continuer. Quand on fait des études ou quand on fait une formation, il y a des moments où on n'a pas envie de travailler certains cours. On est là-dessus, on dit, ah, vraiment ça. Et puis après tout, j'ai qu'à laisser ça. Mais après, on pense, on dit, mais, attends, quand même, ça va m'ouvrir les portes à ce poste que j'aimerais tant occuper. On se ressaisit, on y va. Et en parlant de l'appel de Dieu, les enjeux sont encore tellement plus grands que c'est beaucoup plus qu'un nouveau poste, c'est beaucoup plus que se sentir mieux, c'est beaucoup plus que trouver son conjoint, c'est beaucoup plus que de pouvoir être libre, de pouvoir voyager, etc. C'est notre avenir éternel et c'est l'avenir éternel des gens qui nous entourent qui est en jeu. Mais si on ne se fixe pas un objectif, on n'accomplira rien. Donc l'objectif que vous allez vous fixer, ou celui que vous êtes peut-être en train de poursuivre aujourd'hui, j'ai envie de dire pour certains, tant bien que mal, est-ce qu'il correspond à ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous avez la paix dans votre cœur par rapport à cet objectif ? Parce qu'il y a des gens qui poursuivent un objectif, mais ils sont même pas en paix par rapport à ça. Vous savez, l'un des signaux quand Dieu vous parle et quand vous êtes sur la voie de ce que Dieu veut pour vous, c'est d'être dans une paix profonde. Même si toutes les circonstances vous disent le contraire, vous êtes en paix parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous allez accomplir la bonne chose. Et une autre question qui revient et qui est revenue dans chaque message et qui revient encore ici, est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que ça va vous coûter ? Est-ce que vous êtes prêt à laisser ce qui paraît un acquis aujourd'hui pour atteindre votre but et atteindre cet objectif ? Parce que se porter vers quelque chose de plus élevé ou vers une situation différente va tôt ou tard aussi supposer de laisser certaines choses de notre situation présente dans lesquelles nous sommes quand même relativement confortables ou qui nous ont paru comme quelque chose de bon, comme un acquis, parfois même une affaire classée. Vous savez, parfois, pour nous porter de l'avant vers la vision globale de Dieu et pour atteindre l'objectif suivant qu'il nous faut nous fixer, eh bien, on doit abandonner ce qui était peut-être la récompense d'une étape précédente mais qui ne correspond plus à l'étape suivante. Est-ce que vous me suivez ? Oui, ça va ? Sinon, j'essaye d'expliquer mieux, hein, parce que moi, je sais ce que je veux dire, mais j'aimerais que vous me suiviez. C'est quand même mieux si vous me suivez, hein, sinon c'est pas intéressant. Et si je parle pour moi-même, je peux le faire tout seul devant mon miroir. Et vous savez, quelquefois, ça nous demande, et même pas quelquefois, souvent, ça nous demande une consécration supérieure. Et ça, c'est vrai, autant dans le domaine naturel, on va dire. Vous savez, jusqu'à un certain niveau scolaire, on peut se permettre de faire ses devoirs un petit peu, parfois la va-vite, et puis d'avoir beaucoup de loisirs et beaucoup de choses à côté. Mais quand on arrive à l'université, et puis qu'on monte encore un petit peu plus, ou quand on arrive pour transposer au domaine professionnel, tant qu'on est juste salarié, employé à faire certaines tâches, on arrive, on accomplit nos tâches, on repart, et puis ça va, on a l'esprit tranquille. Mais quand on entre en responsabilité, maintenant il faut s'assurer que tout fonctionne correctement. Maintenant il faut s'impliquer davantage. Ou peut-être que même quand je sors, je suis en train de réfléchir à comment la journée de demain va s'organiser, etc. Est-ce que je suis prêt à laisser le confort là maintenant pour atteindre cette étape suivante ? Parce que souvent on voit, moi j'aimerais un meilleur boulot, je voudrais être responsable, je voudrais être le patron. C'est très bien, mais est-ce que tu réalises que quand tu seras responsable, ton téléphone, à tout moment, il faut être capable de répondre ? Et quand tu es responsable, tu dois aussi prendre tes responsabilités. Je vous décourage pas du tout, visez plus haut. Si vous êtes capable, si vous avez l'occasion, soyez des responsables, c'est une expérience extraordinaire. Et moi je remercie Dieu pour les postes à responsabilité que j'ai occupés et que j'occupe jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de plus riche que ça. Et Dieu vous enseigne à travers ça. Et ça vous transforme. Et ça vous oblige à rester en activité. Et ça vous oblige à être inventif. Vous vous endormez pas dans ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas appelé à être responsable, soyez encore une fois un très bon employé. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais parfois, il y a un confort présent qu'on devra laisser. Ou certaines choses que je pouvais faire jusqu'à maintenant. Je ne parle pas spécialement d'un péché, mais il y a certaines habitudes qu'on peut avoir et jusqu'à un certain temps, tout va bien, ça marche très bien. Et puis un beau jour, on te dit, on va passer à l'étape suivante, il y a un nouvel objectif à atteindre. Et là, tout d'un coup, ce qui paraissait pas gênant, tout à fait normal, c'est tout à fait compatible, tout d'un coup, le Saint-Esprit, il allume le projecteur. Là. Mais il va falloir traiter ça. Est-ce que je suis prêt à traiter ça ? Et parfois, est-ce que je suis prêt à laisser quelque chose ? Ou à laisser quelque chose s'éloigner de moi, parce que parfois c'est ce qui nous arrive, parfois quelqu'un, pour l'étape suivante. Parce que si vous n'êtes pas dans cette disposition-là et que vous êtes encore en train de vous dire « mais je veux bien progresser, mais c'est quand même pas si mal hein, là où je suis », tant que vous pensez que vous n'êtes pas si mal là où vous êtes, vous n'allez jamais progresser, parce que vous n'allez pas investir votre énergie pour aller plus loin. De nature, nous les humains, on a tendance à se trouver un espace de confort dans notre circonstance. Et même si extérieurement on dit « ouais, je suis pas bien », il faudrait que ça bouge, mais on a quand même notre petite zone de confort là. Et par exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail, il se dit « j'aimerais tellement travailler, tout ça », mais quand on lui propose du travail, il se dit « ah, mais je peux plus me prélasser, je peux plus prendre mon temps, c'est fatigant quand même le travail, tout ça ». Et là, on doit faire un choix. Est-ce que je me porte vers cet objectif qui va vouloir dire aussi de perdre quelque chose de cette situation présente, mais tout en sachant que je vais quand même avoir un salaire qui va arriver, je vais pouvoir m'organiser, je vais pouvoir faire certains projets. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, il vous faut des objectifs précis, spécifiques, mesurables. Il faut des objectifs réalistes. Il vous faut des objectifs qui sont en phase ou qui respectent votre intégrité. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous savez, ça ne tient jamais très longtemps. Je vais dire comment ne pas être en accord avec soi, ça pourrait être tout un développement aujourd'hui, mais ça peut être le sujet. Mais quelquefois, on croit vouloir faire quelque chose, on dit « moi je vais faire ça, je vais faire ça », mais au fond de nous-mêmes, on n'a pas tellement envie que ça change. Donc est-ce que je suis prêt au changement que va provoquer ma progression vers ce nouvel objectif, vers cette destination ? Maintenant, si on a rempli ces conditions, ça fait déjà pas mal, hein ? Eh bien, l'objectif n'est pas seulement, encore une fois, un concept, une idée comme ça. Un objectif, c'est quelque chose qui va devoir être formulé. Donc, un objectif, on le formule positivement. Par exemple, on ne dit pas « je ne veux pas telle ou telle chose », mais on dit ce qu'on veut atteindre. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous montre que ce que nous pensons, c'est ce vers quoi nous nous portons. La parole de Dieu nous montre que ce que nous déclarons, c'est ce que nous appelons à l'existence. Dans l'épître de Jacques, il est dit que la langue, c'est comme un gouvernail, donc ça donne une direction. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que même si nous disons « je ne veux pas telle chose », mais quand nous déclarons cette parole, quand nous donnons ce mot, ce terme, eh bien nous donnons cette direction-là quand même parce que c'est le mot que nous avons lâché. C'est l'idée, c'est le concept, c'est l'énergie que nous avons libérée. Les paroles que nous déclarons, excusez-moi, j'ai pas un terme très spirituel ici, mais je vais remettre un verset derrière pour vous rassurer, mais les mots que nous déclarons libèrent une énergie pour accomplir ce qu'ils signifient. Donc même si je ne veux pas, allez, je vais le faire parce que de toute façon, ça n'est qu'un exemple, mais par exemple, au lieu de dire tout le temps, je ne veux pas avoir d'accident, mais qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer ? Accident. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous dites « je ne veux pas faire d'accident », vous entendez « accident, 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 accident ». Vos pensées méditent « accident », vous provoquez « accident ». Pourtant, vous ne vouliez pas d'accident. Parce que la négation, c'est pour nous, on se comprend, on sait ce qu'on veut dire « je ne veux pas ça ». Mais vous savez, dans le domaine de la foi et dans notre fonctionnement, il n'y a pas d'histoire de négation, pas négation. Les termes que nous employons viennent s'imprimer dans nos pensées. C'est ce que nous méditons. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous pensez. Si vous dites constamment « je ne veux pas d'accident, je ne veux pas divorcer », mais qu'est-ce que vous mettez dans vos têtes ? Accident, divorce. Ça crée des pensées négatives et souvent d'ailleurs vous constaterez que même des gens qui disent tout le temps « ah moi je voudrais surtout pas qu'il m'arrive un accident, je veux pas d'accident, je veux pas d'accident », c'est des gens qui ont peur, qui sont dans la crainte, qui sont mal à l'aise. Mais plutôt si vous déclarez « je suis en sécurité », qu'est-ce que vous entendez sécurité ? Qu'est-ce que vous pensez sécurité ? Qu'est-ce que vous croyez sécurité ? Qu'est-ce que vous allez déclarer sécurité ? Vous êtes en paix, vous êtes en sécurité. Quand vous prenez votre voiture, vous dites « je suis en sécurité ». Et Jésus a dit « si vous dites à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer » et que vous croyez, ce que vous dites s'accomplira. Et il dira aussi que lorsque vous demandez quelque chose, quand vous priez, croyez que vous avez reçu, vous verrez s'accomplir. Donc ce que vous déclarez, ça c'est vrai que c'est un thème récurrent chez moi, mais c'est la parole de Dieu, c'est tellement puissant et transformateur. Et ça va plus loin que juste ce qu'on a pensé. Et donc, un objectif, c'est quelque chose qui se formule positivement, parce que c'est ça qui vous motive, qui donne de l'énergie. Vous savez, même quand on est là, parfois, qu'on n'est pas trop en forme, plutôt que de dire « je ne suis pas triste, je ne suis pas triste, je ne suis pas triste », de dire « je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué », vous répétez « fatigué ». Faites l'expérience un jour, quand vous êtes fatigué, vous allez voir. Au lieu de dire « je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué », ou bien au lieu de dire « je ne suis pas triste, je ne suis pas une personne triste, je ne suis pas une personne triste », dites plutôt « je suis une personne joyeuse, je suis une personne joyeuse, je suis une personne joyeuse ». Et c'est bizarre parce que ça va réveiller en vous une paix et une joie, parce que vous déclarez joie. Mais tant que vous déclarez « je ne suis pas triste, je ne suis pas triste, je ne suis pas triste », il ne se passe rien, au mieux, au pire, vous êtes quand même en train de remuer la soupe de la tristesse. Même si vous mettez quelques gouttes de pas dedans, appelez les choses à l'existence. Ça, c'est la nature de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Et Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc au lieu de formuler la négation de ce qui est, formulez positivement et appelez ce qui n'est pas encore. Et vous le verrez se manifester dans votre vie. Donc un objectif se formule positivement à la première personne avec un verbe d'action. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas on, c'est pas je ne sais trop quoi, c'est je. Par exemple, vous avez décidé de maigrir ou en tout cas d'être en meilleure santé. Et donc plutôt que juste de dire au lieu d'être évasif comme ça ou de dire je ne mange pas de choses trop grasses, hein, à la télé ils disent ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré, c'est très bien, on va faire un petit truc mangerbouger.fr pour aider le gouvernement dans... c'est très bien, mais vous savez, au lieu de vous dire je ne mange pas gras, je ne mange pas salé, je ne mange pas sucré, commencez à dire je mange des choses saines, et vous allez voir que même votre appétit va commencer à se porter vers des choses saines. Vous savez, moi j'avais une habitude fâcheuse, je ne buvais pas d'eau. Que du jus, que du soda, que toutes sortes de choses. Et puis Sophie me disait souvent, mais si, il faudrait quand même boire de l'eau. Et un beau jour, j'ai dit, il faut peut-être faire quelque chose par rapport à ça, et c'est vrai que c'est mieux pour la santé. Et donc, au lieu de dire, je ne bois plus de jus, ou je bois moins de jus, je ne sais pas quoi, j'ai commencé à au moins concevoir l'éventualité de boire de l'eau, ce qui est déjà un grand progrès, ce qui était un grand progrès chez moi. Et puis ensuite, j'ai commencé à me dire, j'ai soif, tiens, je vais prendre de l'eau. Et j'ai commencé à prendre de l'eau, à prendre le goût de l'eau. Et au bout d'un moment, quand vous avez soif, vous allez vous porter vers l'eau. Au lieu de me dire, non, faut pas que je prenne du jus, faut pas que je prenne du jus, faut pas que je prenne du jus. Il serait meilleur pour moi de prendre de l'eau, je choisis de prendre de l'eau. Quand j'ai soif, je bois de l'eau. Ça, c'est par exemple une bonne déclaration, c'est un bon objectif. J'utilise des exemples très simples, mais qui me concernent, pour vous montrer que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être pratique. C'est bien de chercher les grands concepts spirituels et j'aime à le faire parce que Dieu veut nous révéler des choses extraordinaires. Mais en même temps, c'est important que nous soyons efficaces en action et en train de pratiquer les choses de la parole de Dieu dans notre vie de telle sorte, encore une fois, qu'elles servent de témoignage pour les autres. Vous savez, des fois, vous avez un risque et une tentation qui est là. Il va falloir que je commence à me calmer aussi parce que le temps passe. Mais de vouloir tellement monter dans les hauteurs spirituelles, mais... Peut-être au tard, le témoignage n'est plus là, parce que parfois, on va être tellement spirituel que peut-être on va pas vouloir se former, on va pas vouloir acquérir de nouvelles connaissances. Ou bien on va être tellement spirituel qu'on va pas tellement prendre soin de soi, ou pire, ne pas prendre soin de sa famille. On va être tellement spirituel. Le problème, c'est qu'on est peut-être très spirituel, hein, peut-être des super révélations, mais vu de l'extérieur, les gens disent « oui, mais c'est bien beau votre histoire, mais regardez l'état de votre vie. Qu'est-ce que vous accomplissez ?» Mais quelqu'un qui accomplit des choses dans sa vie, vous savez, les gens vous écoutent. Et moi, je bénis Dieu parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont des positions élevées dans certains domaines, et que ce soit au niveau de certaines institutions françaises ou à l'étranger, des membres de certains gouvernements, et des personnes dont vous sentez qu'ils ont pour vous un respect, une révérence et qu'ils vous donnent du crédit. Alors que moi, je me dis, mais je suis qui ? Mais parce qu'ils voient que vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous avez de l'éducation, vous accomplissez quelque chose. Vous n'arrivez pas juste avec à brandir une Bible en disant l'évangile, mais vous n'êtes pas capable d'aligner trois mots correctement. Et je ne dis pas ça pour juger personne ou pour quoi que ce soit, mais je dis soyons des hommes et des femmes qui s'instruisent, qui se développent, qui accomplissent des choses, que nous donnons du crédit à la parole de Dieu, donnons du crédit au témoignage de Dieu dans notre vie. On va dire, mais ouais, ils ne sont pas... Et parfois, les gens ont tendance à dire « Ouais, mais les chrétiens, c'est tout le ramassis des pauvres, des illettrés, des incapables, des gens qui savent pas quoi faire dans leur vie. » Et moi, je dis qu'il est temps que le monde retrouve l'image réelle d'une église qui est la gloire de Christ. Parce que Jésus n'a pas choisi une fiancée qu'il a ramassée au fond d'une poubelle, pardon. Et si, pardon, il l'a ramassée au fond d'une poubelle, parce que moi, j'étais au fond d'une poubelle, si je regarde par rapport à la grâce de Dieu. Mais il l'a pas laissé comme ça et il l'a pas amené. Il va pas demain se marier, puisqu'en fait nous sommes sa fiancée, donc il y aura ses noces extraordinaires. Hein. Il va pas se marier avec une fille qui a l'air de sortir d'une poubelle. S'il nous a pris dans la poubelle, il nous a donné tout ce qu'il faut, il travaille sur nous et il nous transforme pour que nous devenions l'église glorieuse, sans tache ni ride, avec qui il veut se marier. Et ça, c'est vrai dans le domaine spirituel, mais je dis et je défends ici que c'est vrai dans le domaine naturel, professionnel et de votre épanouissement. Dieu veut voir sa gloire manifestée à travers votre vie. La gloire de Dieu doit rentrer dans les entreprises, dans les administrations, dans les rues, partout, parce que sa gloire est en vous. Et Dieu ne sera pas glorifié avec des gens misérables qui traînent dans un coin. Dieu sera glorifié avec des gens responsables qui accomplissent leur vie, qui sont heureux, qui sont dans la paix, dans la joie, qui sont pleins de foi et qui, à chaque fois qu'on leur donnera du crédit, diront « Attention, le crédit, il vient de là, c'est Jésus. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus la vérité. C'est Jésus qui m'a pris là où j'étais et qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. C'est Jésus qui peut faire la même chose pour toi. Ça, c'est un témoignage. Et quand la Bible dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins », ce terme de puissance, c'est pas juste le chatouillis spirituel du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les chatouillis spirituels. Ça fait du bien parfois de tomber par terre et d'autres choses. Oui, mais c'est pas que ça. Vous recevrez une puissance, une capacité, une habilité qui va se manifester pas seulement dans le fait de tomber par terre et de se rouler par terre et de rigoler, de pleurer et tout ça. Ça nous fait du bien, ça nous guérit. Merci Seigneur pour ça. Mais qui doit se manifester aussi dans votre vie, à l'extérieur, dans vos activités. Des gens qui se fixent et qui accomplissent leurs objectifs. Courez vers le but, je finis quand même. Donc, un objectif doit être positivement formulé et un conseil que je vous donne et que Dieu nous donne, c'est qu'il soit écrit. Écrivez vos objectifs. Comme ça, vous posez une position. Si aujourd'hui ou dans la semaine, vous fixez l'objectif, par exemple, je reste sur des exemples très simples et basiques, de lire davantage votre Bible. Ne dites plus « je vais lire plus ma Bible ». Dites-vous, chacun pour soi, hein. Mais par exemple, comme moi je l'ai fait à un certain moment, je lis 5 chapitres par jour. Et bien sur mon cahier, j'ai écrit « je lis 5 chapitres par jour ». Vous l'écrivez, vous l'inscrivez. Et Dieu a dit ça à son prophète Habacuc. On va regarder ça dans Habacuc 2.2. Vous allez voir, c'est intéressant le lien qui est fait. Je vais finir tout de suite. Ça va? Vous supportez encore un petit peu? En tout cas, je crois qu'on va se revoir avec ce thème parce qu'il est vraiment intéressant. Vous savez quoi? Moi, j'ai envie de... Vous êtes là, mais à certains moments, et je sentais vraiment ça dans mon cœur, de lancer le défi et de dire, donnez-nous juste une année de votre vie. Juste une année. Et vous allez voir les changements qui vont être produits dans votre existence. Pas grâce à moi, mais par la parole de Dieu. Pour ça, même ce plan, lisons la Bible ensemble, ça qu'on a commencé ensemble, pendant un an, on couvre toute la Bible. Et à la fin, vous aurez accompli l'objectif, vous aurez lu toute la Bible. Et si vous suivez régulièrement les enseignements de la parole de Dieu, juste une année, je vous garantir que les changements seront tellement radicaux et fondamentaux dans votre vie que vous ne voudrez plus jamais vous arrêter. Mais au départ, il faut choisir de le faire, se fixer des objectifs. Donc Habacuc, il est passé où voilà, Habacuc 2, vous avez trouvé ? Habacuc 2, on va prendre juste le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, accomplis-la, car elle s'accomplira certainement. » Mais remarquez le verset 2, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Et en réalité ici, littéralement la traduction ce serait « afin que celui qui la lise court » du verbe « courir ». Alors si on fait un commentaire, on peut dire que Dieu lui a dit d'écrire ça pour que les messagers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone, internet et tout ça, hein, pour que les messagers puissent prendre la feuille et puis courir, annoncer partout la prophétie. Mais on peut aussi très bien comprendre et accepter ici que lorsque vous écrivez la parole de Dieu, mais aussi quand vous écrivez l'objectif que vous avez fixé, parce que vous savez, quelque part, quand vous fixez un objectif, vous prophétisez sur vous-même. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu sur des choses à venir. Et lorsque je dis « je mange sainement », alors qu'aujourd'hui c'est pas mon cas, je prophétise sur moi-même. On est d'accord? Et c'est en accord avec la parole de Dieu, puisqu'il me dit de prendre soin de mon corps, qui est son temple. Quand je dis « je lis la Bible 5 minutes par jour », jusqu'à maintenant je ne le faisais pas, mais je prophétise. Je parle en avance, je déclare quelque chose que je veux voir réaliser. Je parle de la part de Dieu parce qu'en accord avec la pensée de Dieu qui me dit de passer du temps dans sa parole et je déclare quelque chose qui va s'accomplir. Je prophétise. Donc, vos prophéties, quand vous prophétisez, quand vous parlez sur votre vie les choses de Dieu, écrivez la prophétie. Écrivez-la pour que celui qui la lit puisse courir avec elle, c'est-à-dire écrivez-le pour que le jour aussi où vous êtes là dans votre course, c'est que le jour où peut-être c'est difficile, ou même quand ça va bien, mais vous revenez, vous lisez ce que vous avez écrit, et vous allez voir, est-ce que j'ai réalisé ce que j'ai pas réalisé? Ou vous allez voir, c'est-à-dire, voilà la décision que j'ai prise ce jour-là, je me tiens à cette décision, voilà mon objectif. Et même si peut-être du premier coup vous réussissez pas, mais vous restez fixé sur votre objectif, vous continuez de vous porter vers ce que vous voulez accomplir, et vous irez jusqu'au bout. Donc écrivez, c'est très important d'écrire, vous savez, d'écrire les choses, ça laisse une trace. Vous n'avez pas besoin de le publier, mais déjà pour vous-même, Déjà, écrire, ça pose déjà une action sur votre prise de position, votre décision. Vous vous engagez, même si c'est envers vous-même, mais je m'engage à me porter vers cet objectif. Vous l'écrivez pour pouvoir courir avec cette parole, courir vers l'objectif. Et ça, après, c'est encourageant de reprendre. Et je connaissais quelqu'un comme ça qui avait écrit ses objectifs sur un cahier et qui revenait dessus et qui avait coché « réalisez-le » ou bien « accomplis-le ». Et quand vous revenez et que vous voyez « c'est fait », ça vous encourage. Vous vous dites ben, « peut-être que là, il y a un objectif qui est dur à atteindre, il y a peut-être un prix à payer, mais tu reviens et tu dis « mais le Seigneur a été fidèle à chaque fois, j'ai accompli à chaque fois ces étapes-là, et aujourd'hui je vais pouvoir continuer d'investir tous mes efforts pour accomplir aussi cette vision-là, cet appel-là, cette étape-là qui se présente à moi. » Donc, écrivez vos objectifs, formulez-les positivement, avec des verbes d'action. Voilà ce que j'accomplis, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je deviens. Ne dites pas ce que vous êtes ou ce que vous ne voulez pas être, mais écrivez ou déclarez ce que vous voulez devenir. Et quand vous avez atteint un objectif, c'est très bien. On ne va pas juste s'asseoir et dire « Ok, c'est bon, j'ai fait mes devoirs ». Vous allez voir que ça va vous motiver, ça va vous encourager à poser un objectif suivant. Et c'est comme ça que Dieu nous amène à aller de gloire en gloire. Mais si on commence pas par poser un premier pas, le deuxième ne viendra pas non plus. Posez un premier pas, fixez-vous un objectif. Et régulièrement fixez-vous des objectifs. Et laissez-vous instruire et conduire par le Saint-Esprit dans votre cœur pour qu'il vous montre qu'est-ce que vous pourriez faire, quels objectifs vous pourriez vous fixer. Quelles sont ses pensées, ses idées aussi pour vous. Fixez-vous des objectifs, accomplissez-les. Ça va fortifier votre foi. Ça va fortifier la foi des gens qui sont autour de vous. De dire, mais c'est possible, ça fonctionne, on peut aller de l'avant, on peut voir les choses changer dans notre vie. Et surtout, vous êtes un sujet de gloire pour Dieu, parce que vous savez, s'arrêter en cours de route, rester à moins que ce qu'on peut atteindre, vous vous rappelez comment ça s'appelle ça? La médiocrité. Et moi, j'aime pas quand il y a écrit « médiocre » sur mon bulletin, même si je suis plus à l'école. D'accord? La médiocrité, c'est pas d'être mauvais. La médiocrité, vous pouvez être très bon, mais médiocre, parce que médiocre, le sens littéral du terme, c'est s'arrêter en cours de route, c'est ne pas aller jusqu'où je peux aller. Et vous savez quoi, nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour épuiser les ressources de Dieu. Il y aura toujours plus, il y aura toujours une gloire supérieure. Mais explorons toutes ces richesses, toute cette grâce de Dieu qui est à notre disposition. Donc courez vers le but, fixez-vous des objectifs, devenez des personnes concernées, des personnes qui accomplissent des choses, qui réalisent des choses. Et je peux vous garantir que c'est une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus motivante. Quand on fait quelque chose, quand on sait où on va, quand on s'est fixé un objectif à atteindre. Et si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de vision générale pour votre vie, eh bien juste posez-vous un instant, peut-être c'est un devoir pour la semaine, tiens. Vous allez vous poser tranquillement et puis vous allez réfléchir, vous allez vous parler à vous-même, entre guillemets. Et puis vous allez réfléchir, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Bon, pourquoi je suis là? Et s'il n'y a vraiment pas de réponse, demandez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, montre-moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Faites cet exercice-là déjà, et la semaine prochaine, je vous apporterai un enseignement sur comment découvrir la destinée de Dieu pour sa vie. Comment recevoir une vision de Dieu? Comment savoir où on va? Parce que, vous savez, en même temps, c'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement compliqué. Et le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur. Donc j'arrête là pour aujourd'hui sur les objectifs. Je vous encourage à mettre en pratique. Fixez-vous un objectif pour cette semaine. Quelque chose, ce que vous voulez, et accomplissez-le. On refera le point ensemble. Et vraiment, laissez Dieu vous fortifier et vous amener plus loin que ce que vous auriez jamais pu faire tout seul. Vous savez, moi, je bénis Dieu parce que si je m'étais tenu à ce que j'aurais pu faire tout seul, je serais encore loin et je serais certainement pas devant vous aujourd'hui. Mais quand vous laissez Dieu vous amener plus loin que ce que vous auriez jamais imaginé, en faisant votre part, vous fixez des objectifs, vous avancez. De temps en temps, vous abandonnez quelque chose, mais vous verrez que Dieu va vous faire gagner tellement plus que vous ne regretterez même pas, vous n'aurez même plus le temps de vous soucier de ce que vous avez perdu, parce que ce qu'il vous a donné, c'est tellement supérieur. Et vous allez de l'avant. Et je prie que le Saint-Esprit vous éclaire, vous renouvelle, vous motive, que vous puissiez aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Et Père, je te remercie parce que ta parole est vivante, qu'elle porte du fruit. Et je déclare maintenant au nom de Jésus sur chaque personne ici présente et qui entend ce message, qu'ils sont des hommes et des femmes conquérants. Ils vont se fixer des objectifs, ils vont les atteindre. Merci Père, parce que nous ne restons pas médiocres, nous ne campons pas dans l'inactivité, mais nous sommes en marche avec toi. Parce que tu nous as dit de courir, tu as préparé pour nous une course, une destinée, une carrière. Et nous sommes là Seigneur, Merci. Merci parce que tu es celui qui nous donne la force, les ressources, les capacités. Merci Père, nous fixons les yeux sur toi parce que nous savons que tu nous amènes à la bonne destination. Je remercie Père parce que tu renouvelles ce matin les forces de ceux qui en ont besoin. Tu donnes ce matin, Papa, et même pendant la semaine, à plusieurs parmi nous, même à tous, parce qu'on a tous besoin, Papa, un rafraîchissement, Seigneur, et une vision renouvelée. Donne-nous, Papa, donne-nous des objectifs, donne-nous une vision de ce que tu veux pour notre vie, parce que nous, on veut accomplir ce que toi, tu veux, Seigneur. On veut que tes plans se réalisent, on veut que ton royaume soit manifesté. C'est en notre désir, c'est de faire ton œuvre, c'est de faire ta joie, que lorsque tu reviennes, tu trouves la foi sur la terre, Seigneur. Tu trouves la foi en nous. Tu nous trouves en train de courir avec foi dans la course que tu as préparée pour nous. Merci Père, parce que chaque personne ici court sa course, ne se laisse pas dérouter. Et au nom de Jésus, nous menaçons toute distraction maintenant. Je déclare au nom de Jésus que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Merci Seigneur, merci Père, tu es celui qui nous donne le vouloir et le faire. Merci Papa, merci pour ta bénédiction qui demeure et qui repose sur nous, sur nos familles. Merci parce que tu nous remplis et nous débordons pour ta gloire. Merci Papa, à toi seul l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.